nous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est Grégor, chaque semaine sur du côté Garrigue, Montpellier, Canassu à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Grégor, une parole anarchiste communiste. Allez, bonsoir. Eh bien, ce soir, notre émission sera consacrée à non pas une lutte quelconque, mais à un vécu de travailleuse. Il s'agit d'une femme en Bretagne, à Douarnenez exactement, dans les Sardinières. Alors, les Sardinières, vous devez connaître la marque, par exemple, Connétable, qui est faite à Douarnenez. Eh bien, ces Sardinières se font exploiter depuis plus d'un siècle. C'est moins que l'on puisse dire. Il y a eu des luttes ouvrières importantes là-bas, de femmes, en 1910. Puis, il y a eu aussi une autre lutte après la guerre 39-45. Je ne sais plus à quelle date exactement, c'était toujours la première, d'accord, 14 ans. Donc, dans les années 20, je crois qu'ils se battaient d'ailleurs pour la journée de 8 heures, puisqu'à cette époque-là, ils se faisaient exploiter 10 heures, 12 heures par jour. Alors maintenant, bon, ça a changé en ce sens qu'ils ne bossent plus de... Ils bossent 8 heures, mais ils sont toujours payés au SMIC, ils ont toujours un rendement à faire. Et la femme qui va parler a été interviewée par un copain qui a d'ailleurs été, qui s'est fait d'ailleurs exploiter dans cette usine lui aussi, mais ça a duré moins longtemps. Et voilà, ça permet, disons, de retrouver un petit peu du vécu. Une tradition qui se perd un petit peu. Et je crois que c'est important qu'on comprenne bien qu'aujourd'hui, il y a encore des situations qui nous font penser au siècle dernier.
La ville de Douarnenez est connue pour les conserves de sardines. On comptait en 1900 32 conserveries qui employaient 4000 personnes et faisaient fonctionner 800 bateaux embauchant eux-mêmes 3500 marins. Aujourd'hui, il y a à Douarnenez plus que deux conserveries, la conserverie Paulet et la conserverie Chancerelle, qui produisent l'une et l'autre les marques Petit Navire et Connétable. Quasiment tout le monde connaît, enfin tout le monde mange les boîtes de sardines de ces deux marques-là. L'activité de pêche est globalement masculine et l'activité d'étripage et d'emboîtage, c'était une activité réservée aux femmes. On y trouvait des mères et des filles qui allaient travailler ensemble à l'usine pour la gloire de Douarnenez et la gloire des sardines de Douarnenez. On appelait ces femmes les peines sardines parce qu'elles portaient une espèce de coiffe sur la tête et qui ressemblait à une des têtes de sardines, donc peine sardine, ça veut dire tête de sardine en breton. Ces femmes étaient payées à la pièce, ou plutôt au mille, donc en fait c'était les patrons qui évaluaient à l'œil combien chaque femme avait fait de sardines à la journée, donc en gros elles étaient très très pauvres et le revenu des foyers était principalement le revenu de la pêche des maris. Donc les femmes, pendant que les maris étaient en mer, compensaient un petit peu le peu d'argent et la misère en allant travailler à l'usine. En 1905, il y a eu une première grève où en gros les femmes se sont mise ensemble pour demander à ce qu'elle soit payée à l'heure. Donc c'est une grève qui a duré deux semaines, qui a été assez dure, parce qu'en plus ces femmes vivaient dans la misère, donc le revenu en moins était difficile à compenser. Et après quelques semaines, elles ont gagné cette grève et ont gagné d'être payées 80 centimes de l'heure. Pour avoir un ordre d'idée, 80 centimes de francs, je parle. Hein, et pour avoir un ordre d'idée, à l'époque, c'était 15 francs le kilo de beurre. Donc ça fait pas grand-chose quand même. Et voilà, cette grève est nouvelle, parce que c'est une grève spécifiquement de femmes. Il y a des soutiens à côté qui sont masculins, potentiellement, mais c'est une grève de femmes. Les usines de Douarnenez sont fermées, sont bloquées, et des usines environnantes dans les villes à côté se ferment aussi en solidarité, donc c'est assez intéressant. Et surtout, cette lutte est victorieuse au même moment où celle des grèves des ouvriers du bâtiment et des marins-pêcheurs, qui sont là spécifiquement masculines, sont un échec, ils se font rembarrer par les patrons. Et puis celle des soudeurs, les mecs qui soudaient les boîtes de conserve en bout de chaîne de fabrication, gagnent, mais on ne fait que retarder de quelques années, enfin une ou deux, la mécanisation et la perte de leur travail de manière plus générale. Voilà, on considère que cette grève de 1905 est un peu une grosse répétition de la grève de 1924. En 1924, il y a une seconde grève qui, là, ce coup-ci, est pour une revalorisation de leur salaire horaire. En gros, les femmes sont toujours payées à 80 centimes de francs de l'heure, quasiment 20 ans après la première grève. Et là, elle réclame 1 franc 25. Donc là, c'est une grève beaucoup plus violente. Il y a 42 jours de grève, à peu près. Au bout de 42 jours de grève, Daniel Leflanchec, le maire de communiste de Douarnenez, qui soutient ces femmes grévistes, est blessé par balle. Ça a été prouvé que c'est des agents, des jaunes, enfin, qui sont venus à Douarnenez, payés par le patronat, pour faire flancher la grève, et donc ils cherchent à assassiner Leflanchec et son cousin. En représailles, les grévistes s'en prennent à l'hôtel hébergeant ces jaunes. Ça monte au niveau violence, c'est beaucoup plus important, et c'est une grève qui aura un retentissement au niveau national. Paris s'en mêle, entre autres. Et le 8 janvier 1925, donc après plus de 50 jours de grève, les sardinières obtiennent de nouveau ce qu'elles ont réclamé, c'est-à-dire 1 franc 25 de l'heure. Cette grève a un retentissement national, entre autres parce qu'elle est inédite, enfin inédite à part celle de 1905. Et c'est aussi ce qui est intéressant, c'est que c'est quasiment une des premières fois au niveau de l'histoire française, de la lutte des classes, que la question de l'égalité salariale entre les hommes et les femmes est mise sur la table. C'est pas ce qu'elles obtiennent, parce que les hommes sont payés plus à cette époque-là, mais voilà, la question entre dans les discussions lors de cette grève-là. Donc aujourd'hui, en fait, les conditions de travail dans les sardineries ont évolué en fonction des moyens de notre époque. La mécanisation a remplacé pas mal d'étapes de la chaîne de fabrication. Par contre, les activités d'étêtage, d'étripage et d'emboîtage des sardines, principalement, ça reste toujours des activités manuelles et toujours réalisées par des femmes. À la différence, par contre, du début du XXe siècle, c'est qu'aujourd'hui, les sardinières, c'est plus des femmes de marins de Douarnenez, c'est principalement des étudiantes en vacances qui financent leurs études durant l'été, des immigrés précaires ou des chômeurs de longue durée qui ont des obligations de travail par Pôle emploi ou par l'État. De manière générale, durant la saison des sardines, c'est surtout des intérimaires. Et globalement, cette présence d'intérimaires fait que c'est des gens qui connaissent pas du tout cette histoire-là des sardinières, ou alors très très peu, des grèves, de la solidarité entre femmes, entre ouvrières. Et ça, quelle que soit l'origine, que ce soit des femmes présentes originaires de Douarnenez ou originaires d'autres régions et qui vivent à Douarnenez et qui travaillent là-bas, ces histoires de grève de femmes sont peu connues, même si la région, le pays de Douarnenez, est appelé le pays des peines sardines, en référence à ces femmes-là. Ça serait peut-être un peu simple de considérer que l'intérim est le seul responsable du peu de solidarité de classe entre ces ouvrières actuellement, malgré les conditions de travail qui sont assez exécrables, comme vous pourrez l'entendre dans le témoignage de la copine qui parle après. Ce qu'on peut voir globalement dans la situation d'aujourd'hui, avec l'emploi saisonnier précaire et intérimaire dans ces usines, c'est que les conditions de travail sont à peu près similaires à celles de l'époque, à la différence qu'on est à une autre époque et donc les moyens changent un petit peu quand même. Mais ce qui est assez dingue, c'est que, en gros, on se rend compte que une mobilisation comme celle du début du XXe siècle, aujourd'hui, ça reste une question totalement utopique, quoi. On se rend compte que c'est pas du tout possible. Donc l'entretien que vous allez entendre juste derrière, c'est une ouvrière intérimaire qui découvre le travail d'usine, qui découvre le milieu de la conserverie de poissons. C'est malheureusement pas un témoignage exceptionnel, parce que des situations comme ça, il y en a partout dans toutes les usines de France. Et là, c'est particulier parce que c'est vraiment un travail de femme, dans un milieu de femmes, dans une usine. Globalement, ce qu'on peut tirer un petit peu de ce que vous allez entendre, c'est que à Douarnenez, le mythe de la peine sardine, de la sardinière, c'est quelque chose de très important. Il y a toute une communication tirée autour de ça. Et on se rend compte que finalement, c'est juste une image de marque et que la réalité de cette profession dans l'entreprise, dans l'usine, on n'est pas loin du non-respect du droit du travail, voire même du non-respect du droit du travail. Vous allez entendre ce témoignage, vous verrez bien ce que ça en dit.
Il fait encore nuit, elles sortent et frissonnent, le bruit de leurs pas dans la rue résonne.
Il fait encore nuit, elles sortent et frissonnent, le bruit de leurs pas dans la rue résonne.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
À 10 ou 12 ans sont encore gamines, mais déjà pourtant elles entrent à l'usine.
À 10 ou 12 ans sont encore gamines, mais déjà pourtant elles entrent à l'usine.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Du matin au soir, nettoie les sardines, et puis les font frire dans de grandes bassines.
Du matin au soir, nettoie les sardines, et puis les font frire dans de grandes bassines.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Tant qu'il y a du poisson, il faut bien s'y faire. Il faut travailler, il n'y a pas d'horaire.
Tant qu'il y a du poisson, il faut bien s'y faire. Il faut travailler, il n'y a pas d'horaire.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
À bout de fatigue pour pas s'endormir, elles chantent en cœur, il faut bien tenir.
À bout de fatigue, il faut pas dormir, elles chantent en cœur, il faut bien tenir.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Malgré leur travail, n'ont guère de salaire, et bien trop souvent vivent dans la misère.
Malgré leur travail, n'ont guère de salaire, et bien trop souvent vivent dans la misère.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Un jour tout ensemble ces fameuses se lèvent, à plusieurs milliers se mettent en grève.
Un jour tout ensemble ces fameuses se lèvent, à plusieurs milliers se mettent en grève.
Écoutez le bruit leurs sabots, écoutez gronder leur colère. Écoutez le bruit leurs sabots, c'est la grève des sardinières.
Écoutez le bruit leurs sabots, écoutez gronder leur colère. Écoutez le bruit leurs sabots, c'est la grève des sardinières.
Dans la ville rouge, solidaires, et de leur victoire les fameuses sont fières.
Dans la ville rouge on est solidaires, et de leur victoire les fameuses sont fières.
Écoutez le bruit de leurs sabots, écoutez gronder leur colère. Écoutez le bruit de leurs sabots, c'est la grève des sardinières.
Écoutez le bruit de leurs sabots, écoutez gronder leur colère. Écoutez le bruit de leurs sabots, c'est la grève des sardinières.
À Douarnenez et le depuis ce temps, rien ne sera plus jamais comme avant.
À Douarnenez, depuis ce temps, rien ne sera plus jamais comme avant.
Écoutez le bruit de leurs sabots, écoutez gronder leur colère, écoutez le bruit de leurs sabots, c'est la victoire des sardinières.
Écoutez le bruit de leurs sabots, écoutez gronder leur colère, écoutez le bruit de leurs sabots, c'est la victoire des sardinières.
T'es en intérim à Douarnenez. Que tu peux expliquer dans quel contexte t'es arrivé là-bas?
Ben, au départ, je m'étais inscrite sur le site internet de l'agence d'intérim, donc adeco.fr. Et au vu de mon parcours qui est plutôt dans le milieu médical, j'avais choisi des postes type ouvrier de production alimentaire. Mmh. Et donc du coup c'est vrai que eux la principale demande qu'ils ont là-dessus et sur Douarnenez c'est étripeur et videur de sardines dans les deux usines principales de Douarnenez. Et là à ce moment-là il y avait une grande demande puisqu'on était dans la période de la sardine fraîche qui dure quelques mois et ils ont un grand besoin d'intérimaires à ce moment-là quoi. On parle d'à peu près 60 intérimaires qui intègrent l'équipe en début d'été quoi.
C'est toi qui as voulu aller là-bas ou c'est eux qui t'ont...
Ils me l'ont proposé et moi j'avais jamais fait ce genre de poste de travail. Du coup aussi il y avait une part de curiosité et on m'avait dit que ça nécessitait aucune compétence particulière surtout. Je serais formée sur place, ils m'ont dit. Bon, je voyais pas vraiment quelles difficultés ça pouvait y avoir déjà en amont. Donc, et surtout ils avaient besoin de personnes rapidement. Immédiatement quoi, c'était
Et toi t'étais disponible.
Et j'étais disponible voilà pour l'été, même pour 3-4 mois j'étais disponible donc ouais. Avant que la fac reprenne.
Et avant tu faisais quoi?
Avant j'étais infirmière pendant de nombreuses années et bon j'en ai eu un petit peu marre, je voulais voir autre chose. À partir du moment où j'ai décidé d'arrêter infirmière, j'ai un peu touché à tout. J'ai travaillé dans un magasin bio, j'ai été aide à domicile. Bon, j'ai fait un petit peu voilà. Tout sauf dans le milieu médical pratiquement quoi.
Le fait que la boîte d'intérim soit présente dans la
l'entreprise,
quoi, c'est parce qu'il y a un gros turnover d'intérimaires, quoi, j'imagine.
Tout à fait. Avec des grosses difficultés, d'ailleurs, pour l'agence d'intérim de recruter de nouvelles personnes.
C'est à cause de la réputation de la boîte? À cause du boulot difficile?
Une partie, le boulot difficile, il ne faut pas se cacher, mais ouais. Une grosse partie liée aux conditions humaines, d'encadrement.
Parce que Douarnenez, c'est le chômage de masse, quoi. Tout le monde cherche du boulot. Donc,
Et ça paraît étonnant qu'une entreprise qui a besoin de 50 personnes, par exemple, ait du mal à les trouver, par exemple. Sur une ville voilà, où il y a quand même un taux de chômage important, il n'y a pas non plus 14 000 entreprises qui sont assez dynamiques sur le plan de l'embauche. Mmh. Elle en fait partie, et ils ont quand même du mal à recruter. Donc, c'est vrai qu'à un moment, on se demande où ça peut coincer.
Comment ça s'est passé, l'embauche dans la boîte?
Déjà, l'agence d'intérim, ça s'est fait très vite. Hein. C'est-à-dire, vous aviez l'entretien le lundi. Le lundi après-midi, ils vous faisaient aller récupérer vos chaussures de sécurité. Mmh. Et le mardi matin, vous étiez déjà en poste prévu. Ils vous donnaient l'heure. Hein. Vous étiez attendu et voilà.
Et tu disais, la boîte d'intérim est au sein de l'entreprise, c'est ça?
Et là, la particularité, c'est qu'ils ont une annexe, quoi, une annexe dans l'entreprise. Donc ça, je pense que c'est pas non plus courant pour toutes les entreprises, mais c'est que là ils ont un tel besoin que l'agence est présente sur le site, sur l'entreprise. Donc elle fait le lien entre l'entreprise et les intérimaires. Et elle ne s'occupe que des intérimaires dans cette entreprise et sur ces postes-là, quoi. Du coup, j'ai été embauchée rapidement. Et je me suis retrouvée un matin à 5h30 du mat, devant un tourniquet, dans le noir, à attendre, puisqu'on a vu très peu d'informations. Mmh. On nous avait dit, vous serez encadré, vous aurez des gens qui vont vous accueillir. Mmh. Et en fait, je me suis retrouvée à paroter une demi-heure déjà dehors. Donc là, après, il y a eu un des employés qui est arrivé, il m'a fait passer avec son badge sur le tourniquet. Et là, je me suis retrouvée dans le hall d'accueil. Mmh. Là, de rebelote, on réattend. Donc on croise des gens qui sont en blouse blanche, je ne sais pas trop à qui on dit bonjour.
Et vous étiez combien?
Là, moi, j'étais toute seule jour-là. Les autres arrivants, ce jour-là, ils arrivaient l'après-midi. Okay. Tu vois pourquoi? Moi, j'étais pratiquement une des seules qui, ce jour-là, est arrivée le matin, sur l'équipe du matin. Et donc, au bout de 20-25 minutes, il y a une dame qui arrive. J'apprendrai plus tard que c'est une dame qui encadre les nouveaux intérimaires. Mais comme elle ne se présente pas et que c'est assez froid, on ne sait pas trop qui nous parle, quoi. Donc, c'est très vite. Hein. Tu poses tes affaires dans le vestiaire, tu mets ça, tu mets ci, tac. Et puis, un quart d'heure plus tard, vous vous retrouvez face à des sardines qui déroulent sur un tapis. Et là, je vais rencontrer en fait ma tutrice qui sera ma tutrice pour tout le long. Une des seules d'ailleurs avec qui j'ai eu un très bon contact et qui était très respectueuse. Donc elle m'a appris rapidement à étriper les sardines, quoi. Ouais. Dès la première journée, j'ai trouvé l'ambiance très lourde en fait. Et à l'agent d'intérim, il nous avait dit, bon, le premier jour vous arrivez, on vous fait faire un tour de l'entreprise. Ouais. Voilà, c'est pas censé être au bout de 10 minutes, on retrouve avec un couteau et tréper une sardine. On nous avait dit que normalement, c'était un peu plus doux, quoi, l'introduction dans un monde qu'on connaît pas. Surtout que moi, c'était le cas, comme beaucoup d'intérimaires, je n'avais jamais fait ce poste. Mmh. J'étais jamais rentré dans une entreprise de ce style, une usine plutôt. Et donc, du coup, déjà, c'est un petit peu violent. Au bout d'un quart d'heure d'être là, on est tripé, on faut déjà mettre 7 sur la grille. Enfin bon, voilà, on est dans le même cadence que les autres, alors qu'en fait, c'est la première fois de notre vie qu'on est tripé une sardine. Quoi.
Et donc, en fait, c'est un travail posté, quoi.
Oui. Ouais. Mais c'est vrai que dès le début, j'ai senti qu'il y avait une ambiance un peu pesante, quoi. Des regards appuyés, des gens qui vous scrutent. Je sais pas expliquer pourquoi, mais dès le premier jour, je me suis dit, c'est pesant. Je sais pas, il y a pas. L'ambiance n'est pas au rendez-vous tel qu'on nous l'avait un peu décrite à l'agent des intérims, quoi. J'avais une période d'essai de 3-4 jours, il me semble.
Et c'est ta tutrice qui était responsable d'évaluer si tu faisais l'affaire ou pas ?
Finalement, non, parce que c'est la personne que je te disais qui m'a accueilli un peu sèchement, qui m'a évalué, en fait. C'était une des responsables, des tutrices aussi, parce qu'elle avait une charlotte jaune, qui passait son temps à rester plantée derrière nous pendant de longues minutes, à scruter nos moindres faits et gestes. Donc, à la fin de la première semaine, j'ai eu un entretien où ils évaluent le travail de chaque intérimaire, donc c'est simple. Ils vous le disent très rapidement, soit vous suivez les cadences, on vous garde, soit vous suivez pas, on vous dégage, comme ils disent. Donc à la première semaine, bilan, soit on te dit ça va, on te renouvelle, soit on te vire.
Et les horaires de travail, on te les avait dit à l'avance, ou c'était potentiellement variable de jour à jour?
Non, on les a su à l'avance, mais après, en cours de route, on a su qu'après, comme la saison de sardines commençait, on allait faire des journées de 9h. Donc là, on était parti sur un mois de septembre, oui, où on allait commencer à faire des journées de 9h. Donc là, moi, à partir de septembre, j'allais plus être dans l'usine, mais à partir de septembre, dû au fait de l'accroissement d'activité, on passait à des journées de 9h. Donc c'est vrai que ça, c'était pas prévu au...
Parce que là, t'avais signé un contrat d'intérim de combien de temps ?
C'était progressif, c'est-à-dire il y avait la première semaine, bon, ben là, ils évaluent, donc voilà, une semaine, après, c'était 15 jours, un mois, et après, ça commence à être tous les mois, ou un mois, et on passe à 3 mois. C'est progressif, quoi. Après, c'est de plus en plus long.
Et toi, dans l'idée, tu étais prête à faire...
Les 4 mois.
Ouais.
J'étais prête à faire les 4 mois, j'étais disponible. Les horaires me convenaient, et puis voilà.
Quoi. Et la rémunération, c'était correct ?
C'était le... c'est le SMIC.
Ouais.
Après, on avait des avantages tels que le panier repas. Voilà, quelques avantages, quoi. Mais après, ça fait pas une paye... Au vu de la pénibilité du travail et des horaires, la rémunération n'est pas au rendez-vous.
Tu disais que tu avais été reconnu travailleur handicapé, et ça a été pris en compte, ça ?
Je l'ai dit à l'agence d'intérim, moi je suis assez d'accord pour la transparence. L'agence d'intérim ne l'a pas dit. Donc quand on a eu notre premier rendez-vous de bilan la première semaine, c'est moi qui l'ai dit. Je vous le dis, je suis travailleur handicapé. Donc là, il y avait une personne de ADECO qui était présente à cette réunion qui dit « Ah ben, par contre, pour la visite médicale, on est dans l'obligation de vous la faire un peu plus rapidement que pour les autres. » Et après, je leur ai dit « J'ai aussi des restrictions physiques dues à mon reconnaissance de travail handicapé, donc potentiellement, il y aura des choses qui me seront peut-être plus difficiles qu'à d'autres, mais bon, voilà, quoi. On en discute et on voit, quoi. Et là, je vois qu'il n'y a pas de frein particulier. À ce moment-là, quand je dis ça, il n'y a pas de réaction négative. Ouais. Ils me disent que de toute façon, ça va, je tiens les cadences, donc il n'y a pas de problème. Et que s'il y a des aménagements à faire, on verra. Finalement, assez surprise, parce qu'on pensait que des fois, ça peut être un frein. Vous êtes Mais après, je verrai que par la suite, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, il y a des fois un gouffre. C'est-à-dire qu'après, à l'étripage, donc on est debout, et à l'emboîtage, donc mettre les sardines dans les boîtes, entre autres, sardines macro, on est assise. Assise parce que c'est... pratiquement que des femmes, donc je dis assise. Et je me suis rendu compte que la position assise à l'emboîtage m'était très difficile. Et ça commençait en fait à un peu entacher mon état de santé. Donc quand j'ai été à l'emboîtage, j'ai signalé que cette position allait sûrement dégrader mon état de santé. Donc en fait, ils m'ont remis à l'étripage. Donc à raison de 8 heures debout. Sachant que ma restriction, en fait, ça va sur la station debout prolongée.
Okay.
Donc forcément, 8 heures debout, au bout d'un moment, c'est un petit peu coincé. Et donc j'ai juste demandé, puisqu'il y avait la possibilité d'avoir des... Il y a des sièges... Oui, au début de la ligne, il y a quelques tabourets, pour ceux qui ont des problèmes médicaux. C'est balisé comme ça. Et donc au bout de... Mais là, je vous parle au bout de 3 semaines. J'avais quand même tenu 3 semaines debout, où j'ai senti quelques jours que ça commençait à tirer, et j'avais peur après de plus pouvoir marcher, quoi. Où j'ai dit, est-ce que je pourrais potentiellement me mettre au bout, où j'aurais la possibilité d'être assise ou debout. En fait, je voulais pas être uniquement assise, je voulais juste avoir la possibilité de m'asseoir si jamais c'était trop difficile à des moments. Donc j'ai pas de réponse sur le moment, et le lendemain, j'arrive le matin, donc à 6h du matin, et de façon sèche, il y a eu deux des responsables qui disent, bon ben, si tu veux t'asseoir, c'est là. Donc je prends mon petit tabouret et je m'assois. Et ce jour-là, ça a été très particulier mon encadrement, c'est-à-dire que là on était à 3 semaines d'usine, hein. Trois semaines où je tenais les cadences, où j'étais plus un peu moins surveillé qu'au tout début, tout en étant quand même surveillé, parce que ça c'est un passe-temps de certaines, c'est de surveiller étroitement comme si on allait poser une bombe, quoi. Et là, ce jour-là, le seul jour où elles m'ont accordé d'être assise, elles m'ont surveillé de façon excessive et stressante toute la matinée. Donc, à rester dans mon dos, à me dire que ça allait pas, que j'allais pas assez vite, des interventions sur mon travail toutes les 5 minutes, elles sont restées plantées dans mon dos pendant plus de 3 quarts d'heure, à chuchoter, à faire des messes basses, voilà. Ça, ça a été toute ma matinée. Et donc, ben, moi, le lendemain, ben, je suis retournée là où j'étais debout. Parce que c'était pas tenable de pouvoir tenir des cadences à 9 sardines toutes les 10 secondes de grille et d'avoir cette pression psychologique dans le dos. Donc j'ai décidé de moi-même de revenir debout.
À la poste d'origine, quoi.
Ouais.
Au dépend de ta santé.
Au dépend de ma santé.
T'as réussi à tenir debout, continuer à faire le...
J'ai fait un mois et au bout d'un mois, j'ai commencé à avoir du liquide dans le genou, donc un œdème et surtout des douleurs très importantes. Et donc du coup, je suis allée voir mon médecin qui m'a dit ben, c'est pas compatible avec votre état de santé, il faut arrêter le travail, d'autant plus si on ne vous permet pas d'être assise.
T'as fait combien de contrats ?
J'ai fait un peu plus d'un mois.
Ça s'est terminé sur un arrêt de travail ?
Ça s'est terminé sur un arrêt de travail.
Comment ça s'est géré avec la boîte d'intérim et l'entreprise sur la fin de contrat ?
Mon arrêt, ça a été la dernière semaine, en fait. Et en fait, j'avais commencé à la prévenir que je ne renouvellerais pas mon... Enfin, je ne souhaitais pas, je ne serais plus disponible et que j'allais trouver autre chose comme travail. Donc, ils savaient que j'allais arrêter. Et là, quand même, ils ont quand même voulu savoir pour quelles raisons je ne renouvelais pas mon CDD. D'autant plus que j'avais dit que j'étais libre pendant 4 mois. Et je leur ai dit non, j'arrête là, il faut que je trouve quelque chose où je me sente un peu mieux, même psychologiquement, à mon poste de travail.
Okay. Tu savais qui était ton responsable ? Est-ce que c'était des gens, on ne savait pas trop où ils étaient, qui donnaient les ordres et...
En fait, c'était facile de les identifier parce que c'était toutes les personnes qui avaient des Charlotte jaunes. Donc ça, c'est tutrice encadrante, quoi. Et potentiellement, toutes les brimades qu'on a eues ou les trucs négatifs, ça venait de personnes qui étaient avec des Charlotte jaunes. Le plus. Après, il y a quelques permanentes aussi qui se permettent d'avoir des attitudes des fois un peu négatives, mais la plupart, c'était les Charlotte jaunes. En fait, j'ai appris ça plus tard, mais en fait, moi, nous, on pensait avec les intérimaires qu'elles étaient là pour nous surveiller, en fait, sur tout le long de nos journées de travail. Et en fait, j'ai appris plus tard qu'en fait, elles étaient seulement là, normalement, pour nous faire de la pédagogie et nous apprendre. C'était leur mission principale. Et en fait, nous, on croyait que leur mission principale, c'était de nous surveiller. Donc, ça montre bien quand même que ça a un peu glissé, quoi. Ouais. Entre ce qu'elles sont censées faire et ce qu'elles font vraiment, il y a quand même un sacré écart, quoi.
Et donc, tu parles de brimade, c'est-à-dire ?
Ben là, on est sur de l'agressivité verbale permanente. On est sur des réflexions ou des reproches avant même d'avoir expliqué la chose. C'est-à-dire que vous faites mal quelque chose alors que vous êtes là depuis 2 jours. Mm-hmm. Et avant même d'essayer de savoir si on vous a donné l'information, on vient et puis on vous crie dessus, quoi. Donc, par exemple, on a eu des phrases du style « Vous bougerez quand on vous en donnera l'ordre. Pourquoi tu fais ça ? Toi, on t'a rien demandé. » Enfin, voilà, c'est des choses de ce style.
Et donc ça, c'est ta hiérarchie directe ?
Oui, oui.
Et la hiérarchie au-dessus de ces personnes-là, vous les voyez ? Ou ils
non.
Sont autre...
non, non, on ne les voit pas.
C'est un peu pour tout le monde le même tarif ou il y a une différence entre certains employés et d'autres ?
Mais déjà, une différence entre les permanents et les intérimaires, ça, c'est sûr. Très clairement, c'est les intérimaires qui sont ciblés. En fait, on sent que c'est un peu comme une espèce de rouage sur lequel ils peuvent jouer, c'est-à-dire nous on est de passage, donc ils se permettent plus de choses. On voit que ça, pour certaines personnes, ça limite des jours, on demande si ça se défoule pas, quoi. Et je pense que c'est lié au fait qu'on est de passage. Et qu'on n'est pas en CDI, donc entre guillemets, on galère pas à H24 pendant une année, comme elle. Et du coup, je pense qu'elles se permettent plus de choses au niveau des reproches, des choses comme ça, quoi. Et après, si. Moi, après, j'ai eu une altercation avec une employée qui était intérimaire au même titre que moi. Et qui avait aussi agressivité verbale, réprimande. Et en fait, j'ai appris plus tard que cette personne-là avait une personne de sa famille qui était haut placée dans la société, dans l'usine. Donc du coup, ce comportement avait un lien avec ça, quoi. Elle était intérimaire au même titre que nous, mais elle avait des comportements de gens qui étaient permanents, quoi. Et j'ai appris plus tard que ces comportements étaient entre guillemets tolérés puisqu'elle avait quelqu'un de sa famille qui était haut placé dans la société, quoi.
La pression des chefs est assez dure, c'est constant sur la ligne, quoi.
Sur 8 heures d'étripage, c'est 8 heures de surveillance. Et si c'est pas les trois, c'est juste les permanentes qui sont à votre droite ou à votre gauche qui surveillent, mais de façon excessive et stressante surtout. Et ça, ça a été le ressenti de beaucoup d'intérimaires. En fait, surveiller que quelqu'un suit les cadences, ça prend 10 minutes, à peu près.
Et là, tu disais, il y a combien d'intérimaires qui sont arrivés à peu près en même temps que toi ?
Oh, ben il y en a au moins une cinquantaine.
Une cinquantaine ? Que des nanas ?
Oui, non, il y avait des hommes aussi.
Majoritairement des nanas,
mais il y avait des hommes aussi.
Ouais. Certaines de tes collègues parlaient pas très bien français. Comment ça se passait justement pour elles avec la hiérarchie ?
Ben, j'ai eu un exemple d'une dame qui je pense était d'Europe de l'Est, je pense, ouais. qui du coup avait quelques difficultés à comprendre les consignes. Mais elle était seulement sa première semaine quand j'ai observé ça. Et en fait, elle avait tendance à mettre les sardines dans le mauvais sens sur la grille. De temps en temps, elle mettait les sardines dans le mauvais sens. Et il y a une matinée où je pense ça a excédé une des chefs. Et donc là, elle a passé littéralement sa matinée à la harceler. Après, c'est imagé, il faut le voir, hein, en lui passant agressivement son bras au niveau de son cou pour passer le bras et en fait retourner les sardines face à son visage, quoi, en fait. Mmh. Et de façon très agressive. Et elle est restée comme ça pendant 8 heures dans son dos. Faut imaginer ce que ça fait d'avoir quelqu'un dans son dos qu'on sent qui surveille et qui va à tout moment venir passer son bras pour vous remettre le truc à l'endroit. Et elle a fait ça pendant 8 heures. Et en expliquant pas en plus forcément ce qui n'allait pas, en fait. Mmh. À chaque fois, c'était juste de l'agressivité un peu passive aussi et une attitude agressive aussi, quoi. Et ça a été comme ça pendant 8 heures. Et donc là, on a affaire à une dame qui avait l'air d'être complètement... Elle était stressée, elle avait l'air apeurée. Mmh. Et surtout, je pense qu'elle était tellement stressée qu'elle était en nage, quoi.
Et elle est quand même restée ?
Je l'ai plus vue au bout de la deuxième semaine. Je pense, parce qu'une fois je l'ai croisée, quand normalement on se croise entre équipe du matin et équipe de l'après-midi. Mmh. Elle était dans l'équipe de l'après-midi alors que moi j'étais du matin. Donc je pense que peut-être elle a demandé à changer d'équipe.
Cette difficulté avec la hiérarchie qui est tout le temps derrière le dos et qui est embêtante, enfin, qui est vraiment faite pour mettre la pression sur les employés, pour que les cadences soient tenues. C'est le même topo dans toutes les équipes, celle de jour et de nuit, ou alors il y a une équipe pour les nouveaux avec la hiérarchie la plus dure pour mettre bien dans les cases et faire la sélection, et puis une équipe pour les intérimaires un peu plus anciens et éventuellement les gens qu'on pourrait garder après.
Tout à fait. La deuxième équipe, donc celle qui était ma contre-équipe, elle était plutôt constituée de permanents, donc de gens qui étaient en CDI depuis longtemps. Ils avaient un peu moins d'intérimaires. Mmh. Et celle-là, nous, on était, celle où c'était le plus difficile, c'est là où il y avait le plus de nouveaux intérimaires. Il y a quelques intérimaires qui ont demandé à changer d'équipe quand ils ont appris, de quelle façon, mais ça avait l'air d'être notoirement connu qu'il y avait une équipe qui était beaucoup plus difficile que l'autre. Que les intérimaires de l'autre équipe, en fait, soit ils poursuivaient leur contrat, soit ils disaient on est satisfait de notre mission. Ouais. Ce qui n'était pas le cas dans celle où moi j'étais, par exemple.
Et tu penses qu'il y a des intérimaires qui reviennent chaque année à la saison des sardines, ou alors c'est vraiment un boulot trop dur et ceux qui ont fait une saison, ils ne reviendront pas l'année suivante?
Oh, il y a une bonne partie qui reviennent pas l'année suivante. Là, sur tous les gens avec qui j'ai travaillé, il y en avait au moins 70%, même pas plus, qui étaient là pour la première fois.
Et donc, à propos de tous ces collègues-là, que ça soit intérimaires ou les autres, la moyenne d'âge, à peu près, c'est quoi?
Des intérimaires jeunes, hein. Je pense qu'on doit être dans les... Bon, je sais pas, peut-être...
Un peu d'œil, hein.
Ouais, 25 ans, je pense, un truc comme ça. Donc, entre les étudiants et... Pas mal d'étudiants et...
Boulot d'été, quoi. Boulot d'été d'étudiants.
Boulot d'été. Ou personnes qui, je pense, ont pas forcément beaucoup de diplômes et qui, faute de mieux en attendant, font ça, quoi.
Et c'est quoi à peu près la proportion, à ton avis, comme ça, pareil, à vue de nez, la proportion d'intérimaires et donc saisonniers, quoi, et de des gens qui sont en poste, en CDI, dans la boîte?
Ben là, les tripages, par exemple, il y a des après-midi où on s'était retrouvés, je pense qu'il y avait les trois quarts, c'était des intérimaires, à les tripages. Un peu plus à l'étripage qu'à l'emboîtage, mais à l'étripage, oui. Il y avait des après-midi, on était, la majorité, c'était des intérimaires. Je pense que là, j'ai trouvé où ça coince, quoi.
Et l'ambiance avec les collègues est sympa. Les nanas avec qui tu bossais, c'était cool.
Très, très bonne. Et d'ailleurs, c'était avec les seules personnes avec qui, d'ailleurs, c'était détendu, les rapports, on va dire. Mmh. Après, même avec certaines permanentes, c'était pas détendu, quoi. Mais je pense que c'est un rejaillissement aussi de l'ambiance qu'il y a plus haut. Sur les permanentes, on sent que c'est, à mon avis, c'est une espèce de miroir, quoi, en fait. Je pense que comme elles sont aussi pressurisées, entre guillemets, ça se ressent dans leur comportement à elles aussi. Okay. C'est pas forcément tout amical, pas forcément tout accueillante. Certaines dans le jugement, la pédagogie aussi, n'en parlons pas. On est beaucoup dans la réprimande aussi, chez certaines permanentes, quoi.
Chez les intérimaires, entre vous
Ah non, il y avait une très, très bonne ambiance. De toute façon, on s'est dit, bon, ben, on est dans le même bateau. Et c'est plutôt un bateau qui est en mer agitée, quoi, on va dire.
Tu bossais tout le temps avec les mêmes personnes. J'imagine que la personne qui est à côté de toi sur la ligne, c'est pas toujours la même, ou quoi?
Non, c'était pas toujours la même. Après, la première semaine, il y en a aussi que j'ai plus revu parce que je pense qu'ils ont pas été gardés. Ouais. Sur la première semaine, il y a au moins 4 ou 5 personnes que j'ai pas revues. Bon, après, on était potentiellement tout le temps les mêmes, donc on n'était pas forcément assis à côté... Enfin, assis, non pas assis, justement pas assis. On n'était pas debout à l'étripage à côté des mêmes personnes, mais bon, au bout d'un moment, on s'était tous repérés un peu en intérimaire, quoi. Ouais.
Et il y avait le temps durant le boulot de discuter, ou les cadences sont trop rudes pour que ça soit possible de discuter avec la personne qui est à côté de toi ou en face?
Ben, je dirais que le principal truc, surtout, c'est que c'est mal vu de parler. Si vous parlez, il faut que ça se limite à quelques mots, parce que très vite, vous êtes étiqueté, quoi. Il y a eu par exemple quelques intérimaires qui ne c'était pas au détriment de leur travail mais qui parlaient sur 8 heures de travail, qui avaient quelques phases où ils parlaient et ils ont eu des réflexions quoi. Alors qu'ils suivaient des cadences. Il y en a qui ont été séparés par exemple. Deux intérimaires par exemple qui le lendemain, alors qu'ils avaient été toujours du même côté, il y avait deux côtés sur la ligne. Ouais. Ça fait 3 semaines qu'ils étaient du même côté tout le temps et le lendemain, comme par hasard après la réflexion, ils étaient séparés.
Et le lieu sur la ligne, c'est la chef qui décidait, toi tu te mets là tel jour, ou ça se faisait non. Un petit peu comme ça.
Ça se faisait un peu comme ça.
Donc sauf comme procédure de punition. T'as trop causé, donc toi tu dégages à l'autre bout et un peu comme à l'école, les deux gamins qui gueulent trop, on les met au
tout à fait
aux deux angles de la classe quoi.
Oui, infantilisation bien au rendez-vous quoi.
Et les pauses, vous aviez des pauses?
Du tout. Alors on avait deux pauses. On avait une pause de 10 minutes, officiellement 10 minutes, donc c'est-à-dire ça on l'a dit dès le premier jour. La pause de 10 minutes, c'est à partir du moment où on lâchait notre couteau. Donc c'est-à-dire il fallait compter le temps d'aller jusqu'à la salle de pause, qui n'était pas négligeable puisqu'il fallait traverser une partie de l'usine. Il fallait enlever tout notre matériel, c'est-à-dire la charlotte, le tablier, les protections au niveau des bras, ce qui prenait déjà un certain temps, se laver les mains, sortir. Donc la pause était à 8h et vous arriviez à la salle de pause, il était déjà par exemple 8h05, 8h04, 8h05. Sachant qu'il va falloir que vous enleviez 3 minutes, voire 4, pour remettre tout votre matériel. Ouais. Donc officiellement, on avait, sur une pause de 10 minutes, on en avait 2 ou 3 minutes. Et certains n'avaient pas le temps d'aller faire pipi. Donc ils sacrifiaient, soit ils décidaient de boire, soit ils faisaient pipi. On n'avait jamais le temps de faire les deux sur la pause de 10 minutes.
Durant le travail, si tu veux aller pisser
Tu peux, mais comme on nous l'a dit le premier jour, qui dit boisson, dit faire pipi. Sous-entendu, ok, vous pouvez aller boire, mais ça sous-entend que vous allez peut-être aller faire pipi, et nous, on n'est pas là pour vous payer pour aller faire pipi.
Parce qu'il faisait chaud en plus, là.
On était en période de canicule, donc oui. Alors eux, ils avaient organisé un tour d'eau, de nous servir de l'eau, quoi. Mmh. Une ou deux fois pendant les 8 heures. Aller faire pipi, ça avait l'air d'être un point très important pour eux. Mm-hmm. Puisqu'il y a un intérimaire, une fois qu'il s'était fait reprendre. Il y était allé peut-être 3 fois dans toute la session, dans les 8 heures. Et on lui avait fait comprendre qu'il n'était pas là pour aller faire pipi, quoi. On le payait pas pour aller faire pipi. Donc les autres fois, il s'est retenu. S'est retenu les 8 heures, quoi, en gros.
Toi, personnellement, les chefs ont été un petit peu durs avec toi
À partir du moment où il a été question de me déplacer par rapport à mes restrictions physiques... Mm-hmm. Il y a eu un changement, oui. Et il y a eu une pression particulière à partir de ce jour-là, quoi. Vous vous retrouvez à une journée où elles vont vous surveiller 2-3 fois, où elles vont venir dans votre dos, et là, vous vous retrouvez avec quelqu'un, en fait, qui va rester, par exemple, 3 quarts d'heure planté, vraiment dans votre dos, à vous surveiller, quand c'est dans ces conditions. Mmh. Évidemment que là, la cadence, on a du mal à la respecter, puisqu'on sent cette présence stressante et oppressante dans notre dos, donc on perd tous nos moyens.
Et t'as laissé faire?
Non, j'ai dit que ça me convenait pas comme ça, qu'il n'y a pas de raison là de m'oppresser comme ça tout d'un coup, alors que jusqu'à présent j'arrivais à tenir les cadences. Donc il me semblait un peu incongru de me dire pendant 3 semaines tu respectes les cadences, et tout d'un coup parce que je suis assise, il y a une raison particulière de me resurveiller comme si j'avais fait quelque chose de particulier.
T'as ouvert ta gueule quoi, clairement.
J'ai dit que ça me plaisait pas.
Et qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ils n'ont pas trop l'habitude, je pense, de l'intérimaire qui s'exprime, je pense. Ouais. Donc après, c'était des rapports froids, quoi, on va dire. C'était du distancier, on va dire. Puis de toute façon, comme je me suis remise debout le lendemain, pour eux, le problème était résolu, en fait. Le but, c'était surtout que je ne sois pas assise.
Mais donc les conséquences de pratique du fait que tu aies ouvert ta gueule, c'est juste momentané, et après, ils ont arrêté de te faire chier?
Oui, oui. Parce que je me suis remise debout aussi.
Et le fait que tu aies ouvert ta gueule, tu n'as pas eu l'impression que... Ça a créé un peu de tension par rapport aux collègues, ils ont...
Si, je pense, du côté des intérimaires, je pense qu'il y en a qui étaient, entre guillemets, ravis, parce que c'est des choses qu'ils auraient voulu dire, mais après, c'est vu l'ambiance, ils se sentaient pas de le dire. Mmh. C'est pas bien vu d'ouvrir sa gueule, entre guillemets, surtout quand on est intérimaire. C'est surtout quand on est intérimaire, en fait.
Oui, parce que t'es éjectable facilement.
Voilà.
Donc ça dépend si t'as besoin de boulot ou...
Moi, c'était pas une question de thune particulière, donc j'avais la liberté aussi de peut-être plus m'exprimer que d'autres. Que certains étudiants, par exemple, qui avaient vraiment besoin de cet argent-là, qui subissaient ces conditions, mais qui s'étaient fait une raison, quoi.
Ta réaction, elle est exceptionnelle.
Et ça se ressent, d'ailleurs, c'est exceptionnel, parce que leur réaction en face, elle est un peu de personnes qui ont pas l'habitude, qui sont un peu désarçonnées, quoi, qui se disent, mais en plus, je ne l'ai pas fait de façon ni agressive ni ostentatoire. Je l'ai fait de façon très calme. Donc ça aussi, je pense que ce n'est pas une méthode dont ils ont l'habitude. Ouais. Ils ont plutôt peut-être l'habitude d'intérimaires, du coup, qui peut-être ouvrent leur bouche, mais de façon complètement disproportionnée. Donc après, ça finit convocation chez la directrice et vous n'êtes pas gardé. Là, moi, j'ai pas fait tout à fait pareil. Donc, j'ai pas eu de convocation et j'ai pas été viré. Par exemple, avec l'altercation avec l'intérimaire qui était intérimaire au même titre que moi, ouais, qui nous avait agressé avec une autre intérimaire. Mmh. Là, je suis carrément allée voir une des responsables qui a une Charlotte jaune, mmh, et je lui ai expliqué que c'était hors de question qu'on nous parle comme ça, qu'on n'était pas des animaux, qu'il y a le fond et la forme, et que la forme, c'est pas discutable. Il faut toujours y mettre des pincettes, quoi. On parle pas comme ça. On reste dans le respect des gens, quoi. Et la chef, j'ai vu qu'au début, elle était un peu interloquée, un peu surprise, qu'en fait, que j'ose monter jusqu'à elle pour le lui dire, en fait.
Ouais.
Je pense d'habitude, ça reste confiné dans le cœur de l'intérimaire, entre guillemets, qui subit, et puis c'est terminé. Mais là, moi, il est hors de question que je me fasse parler comme ça. Surtout que là, il n'y avait aucune raison particulière. Et là, la chef m'a dit qu'elle allait s'en occuper. Mais oui, je pense que là, ce que j'ai fait, c'est de l'ordre de l'exceptionnel. Je pense que d'habitude, les intérimaires, entre guillemets, ils restent à leur place, comme on aurait tendance à dire à la direction, quoi.
Il y a des représentants syndicaux, il y a des représentants du personnel ils sont visibles. Est-ce que tu sais si jamais il y a aussi un conflit, quelque chose qui va pas au niveau du boulot, de la chaîne, plutôt que d'en parler au supérieur qui va potentiellement prendre des sanctions contre l'un ou l'autre et c'est pas obligatoirement l'objectif. Est-ce que les représentants du personnel ou syndicaux plutôt, on sait qui c'est, est-ce qu'ils sont actifs?
Ben déjà, ils ne nous sont pas présentés.
Ouais.
C'est-à-dire, si on ne pose pas la question, on ne sait même pas qu'ils existent. Et la seule fois où j'ai vu un délégué syndical, c'était à l'occasion d'une réunion, bilan qu'on a tous les vendredis, où il était question, enfin, on commençait à nous parler de l'allongement des journées de travail. On allait passer aux journées de 9h.
Ouais.
Puisqu'on était en plein dans la période des sardines fraîches. Donc le directeur de l'usine était venu pour nous dire « Vous allez passer aux journées de 9h ». Il nous expliquait les conditions.
Ouais.
Et là, la déléguée a demandé à ce que, si les journées étaient de 9h, on ait une pause de 10 minutes supplémentaire. Elle l'a vraiment dit du bout des lèvres. C'est pas un délégué syndical qui avait l'habitude, à mon avis, d'ouvrir sa gueule. Donc elle l'a dit du bout des lèvres. Et d'ailleurs, elle a été rembarrée assez sèchement parce que le directeur lui a répondu que on n'allait pas nous faire travailler 2 heures de plus pour être du temps de plus en pause.
S'ils sont déjà pas hyper actifs avec les gens qui sont en CDI dans cette boîte-là, j'imagine que les intérimaires, en fait, le responsable syndical, il se pose même pas la question des intérimaires, quoi.
Ah non, je pense pas du tout. Pas du tout. C'est pas un interlocuteur des intérimaires, en tout cas.
Ah ouais.
Ça, c'est sûr. On l'a seulement vu à cette occasion-là. Et après, on a vu que ça a fait pchit, quoi. Parce que elle demandait quelque chose qui était assez légitime. 9 heures à l'étripage, c'est quand même pas rien. 10 minutes de pause, ça me semble même être peut-être dans la légalité, en plus. Et elle a été renvoyée dans les cordes.
Combien de personnes dans la boîte?
Ah, ça, je l'ignore. Mais beaucoup. Je pense qu'on en parle de au moins 200 personnes, au moins. Entre l'usine de conditionnement et celle de la détripage de production, on parle d'une grosse usine qui travaille en plus pour plusieurs marques. Oui, c'est une grosse entreprise.
Parce qu'après une journée comme ça, de 8 heures de détripage de sardines, en fait, tu fais plus grand-chose de ta journée quand tu rentres chez toi, quoi.
Ben, déjà, au bout d'une semaine, il y avait déjà les premiers effets secondaires, hein, des intérimaires qui ont très mal au dos, ceux qui rentrent chez eux, effectivement, qui s'assoient et puis c'est terminé, hein, la journée est pliée, ceux qui se sont coupés, ceux qui se sont piqués, bon, ça, ça arrive aux permanentes aussi.
Ouais.
Mais quand on est novice, on va se couper, se piquer plus que celles qui sont là depuis 20 ans. Mais surtout le dos.
Mmh.
Le dos, ça a été très rapide. Au bout d'une semaine, j'ai vu des gens courbés, qui supportaient plus d'être debout, qui avaient la bougeotte sur la ligne, qui arrêtaient pas de se mettre accroupi, debout, pour pouvoir soulager le bas des reins, quoi.
Ouais.
Et ça a été très vite.
Et est-ce que comme on utilise des couteaux, du matériel tranchant, les poissons ça peut piquer aussi, ça. Est-ce que t'as été témoin de, je sais pas, de petits accidents de travail, de petits bobos et tout, et comment c'est pris en charge? Auprès de qui?
Ça par contre, c'est pris en charge. C'est-à-dire, on sait que si on se blesse, il faut prévenir une des responsables qui a une charrette verte cette fois-ci,
ouais,
qui normalement est formé au premier secours. Donc si on se pique et si on se coupe, on est censé aller voir une charrette verte. Après, il faut savoir que c'est assez insidieux. C'est-à-dire qu'on est censé aussi respecter les cadences. Donc il arrivait très souvent à des intérimaires de se piquer avec une écaille ou peut-être pas de se couper avec le couteau, parce que là quand même, c'est assez voyant. Mais de se dire, bon, je vais pas de nouveau aller voir une de mes chefs pour lui dire que je me suis coupé ou que j'ai... En gros, je suis un peu défaillante, on va dire. Et certains, voilà, sont rentrés à la maison en s'étant piqué les écailles. Sachant que se piquer avec une écaille de poisson, ça peut avoir des conséquences, en fait. On peut aller sur du panari, et après, bon, au pire du pire, aller sur une septicémie. Il y a des bactéries, enfin voilà. Mais je sais qu'il y en a certains qui se disaient, bon, je vais pas me faire remarquer, quoi. Tant pis. Je continue avec ma coupure ou mon truc, c'est pas grave.
Oui, surtout que tu bosses dans un environnement humide qui est probablement très sain pour le corps, quoi.
Pour le corps, oui. Donc on sait qu'elles existent et qu'elles sont là, les personnes qui sont là pour en cas de blessure. Ouais. Mais je sais qu'il y a des intérimaires qui feraient les cas de fer avant d'y aller.
Ouais. Ton contrat, c'est fini. Donc ça s'est fini sur un arrêt de travail, mais t'as eu un rendez-vous en partant, t'as discuté un peu pour expliquer un peu comment ça s'est passé.
Ben, disons que quand l'agence d'intérim m'a demandé mais pourquoi vous êtes plus disponible et vous faites pas les 4 mois dont on avait parlé dès le début. Enfin, ils ont tout de suite pensé que c'était lié aux conditions de travail physique, on va dire. Alors oui, en partie, ça en fait partie aussi, mais en fait, c'est vraiment une goutte d'eau à côté des raisons psychologiques. Donc je leur ai dit, si je ne poursuis pas, c'est pas forcément à cause des cadences, c'est à cause de l'encadrement, à cause du côté humain, en fait. Et je pense pas qu'ils étaient surpris, mais disons que j'ai été une des seules qui l'exprimait, on va dire. Il y a d'autres intérimaires qui ont simplement dit, bon ben, je reprends mes cours.
Ou c'est trop fatigant.
Mais la véritable raison, côté intérimaire, nous, on la connaissait. C'est-à-dire, oui, d'accord, j'ai besoin d'argent. Je suis capable de supporter la pression de la cadence en elle-même, c'est-à-dire devoir mettre des sardines sur une grille. Mais je vais pas pouvoir supporter 3 semaines de plus cette pression psychologique. C'est malsain.
Et tu penses qu'il y en a d'autres qui ont arrêté pour cette raison-là, mais qui l'ont pas dit, quoi.
Mais qui l'ont pas dit. De peur, parce qu'aussi, ils ont dit peut-être que dans quelques mois, j'aurais besoin d'y retourner pour X raisons. Hein. J'ai plus vraiment plus tout, j'ai pas le choix. Bon, autant partir sans perdre fracas et ne pas le dire. Mais ils ont écourté leur contrat à cause de ça.
Historiquement, là, la sardine à Douarnenez, c'est vraiment une culture. Des grèves, enfin, ou des mouvements d'ouvrières, il y en a eu dans l'histoire. Est-ce que tu penses que le fait que ça soit majoritairement des intérimaires, on sait que quand il y a des intérimaires dans les boîtes, c'est plus difficile que la boîte se mette en grève ou que les gens se rebellent contre leurs conditions de travail. Est-ce que tu penses que là, vu les conditions de travail difficiles, l'environnement social où il n'y a pas beaucoup de boulot, il y a encore des possibilités que les gens se bougent pour leurs conditions de travail dans ce type d'entreprise à cet endroit-là, quoi.
Ça me paraît difficile, c'est très cadenassé quand même. Moi là je l'ai fait, mais c'était une goutte d'eau dans la mer avec d'ailleurs pas de grandes conséquences sur la vie des futurs intérimaires, quoi, on va dire. Mais ça me semble difficile. Cette pression dès le début, elle est faite exprès aussi pour que l'intérimaire se sente pressé du début à la fin. Il a même pas le temps de penser à ce que je vis n'est pas normal, que on respecte mes droits, quoi. Je pense qu'il a même pas la place, quoi. Moi, j'aurais envie de parler de l'histoire de Douarnenez, de cette grève des sardinières qui a eu lieu. Bon, je sais plus exactement la date, mais qui a fait grand bruit. C'était la première fois que autant d'ouvrières se mettaient en grève. Ça avait eu un sacré impact même au niveau national. Elles avaient réussi à obtenir des choses. On parle là de conditions qui étaient vraiment très difficiles, hein. Et là, elles augmentaient leurs heures de travail pour pouvoir vivre, quoi. Et je me souviens plus de combien elles étaient payées d'ailleurs même pas à la... Là, je dis pas qu'il faudrait revenir à ça, mais je pense que la souffrance est quand même plus ou moins similaire tout en n'étant pas pareil, on va dire. Mais sur la pression, le fait que je suis là, j'ai besoin d'argent, donc je entre guillemets, j'accepte toutes les conditions qu'on m'oppose. Sauf que c'est des conditions qui respectent pas vraiment ni l'ouvrier, ni le droit du travail, en fait. Moi, je pense qu'on en est là, quoi. Et ça me fait bizarre parce qu'on me dit entreprise familiale, on me dit il y a une âme, on me dit ça avant d'y arriver. On me dit parfois même on chante. Et là, on en est très loin, quoi. Alors certes, c'est une entreprise, on est là pour faire, c'est lucratif. Mais là, j'ai envie de dire, il n'y a plus que du lucratif. Il reste plus que ça, quoi. Une fois qu'on enlève les couches, il n'y a plus que ça et il reste pas grand chose de ce qu'on nous vend, en fait. On nous vend entreprise familiale, on nous vend Douarnenez, on nous vend. Du rêve de la sardine. Des gens heureux d'aller travailler qui font le même métier des fois de mère en fille depuis je sais pas combien de générations. Et là on arrive, et ben, les droits du travail sont au tourniquet, ils attendent, ils sont dehors. Vous les récupérez quand vous sortez.
Entends-tu monter le chant des sardinières? Elles chantent comme tu dirais une prière pour ne pas voir ta misère. Entends-tu monter le chant des sardinières? Elles chantent comme tu dirais une prière pour ne pas voir ta misère.
notre sur le port de Douarnenez. Entends-tu entrer le chant des sardinières? Elle chante comme tu dirais une prière pour calmer des larmes amères. Entends-tu entrer le chant des sardinières? Elle chante comme tu dirais une prière pour calmer des larmes amères. Flottant sur le bord de Douarnenez, tra-la-la-la et notre allalo. Flottant sur le bord de Douarnenez, tra-la-la-la et notre allalo. Entends-tu gronder le chant des sardinières? Elle chante comme tu dirais une prière pour étouffer ta colère. Chante comme tu dirais une prière pour étouffer ta colère. Flottant sur le port de Douarnenez, tra-la-la-la et notre allalo. Flottant sur le port de
cette interview décryptée dans notre mensuel courant alternatif du mois de novembre. Vous pouvez donc avoir ce numéro sans problème gratuitement en vous mettant un mail sur notre site auclibertaire.l'autre.net, sur la boîte de mail, je crois c'est sur Hotmail. Vous pouvez aussi nous écrire boîte postale 81 213 et Grégor 81 213 51 058 Reims CEDEX.
Ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat! Et pas le capital.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, c'était le Rigor chaque semaine sur les Coligarigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et Radio Primitive sur Reims où cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.